Vendredi 20 juin, Maëline Robin faisait une conférence à la médiathèque de Royères de Vassivière. Elle est venue nous en parler. Maëline travaille sur l'accouchement et la naissance, et on a parlé de la transition entre la naissance encadrée par des accoucheuses à la naissance encadrée par des sages-femmes et des médecins professionnels qui s'est enclenchée au XVIIIe siècle. Bonjour Maëline.
Bonjour.
Tu viens pour nous parler de ta conférence qui s'appelle « L'accouchement et la naissance au fil du temps ».
C'est ça.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi constitue cette conférence ?
Alors, tu as dit « au fil des temps », j'ai choisi de me concentrer sur un seul temps finalement, puisque l'accouchement, la naissance, hein, ça concerne tout le monde depuis très longtemps, depuis que l'être humain et ses ancêtres, on va dire, existent. Alors, on se doute bien que parler de la naissance depuis la nuit des temps, ça nous donnerait plusieurs jours, plusieurs semaines à passer ensemble, ce qui pourrait être fort intéressant, mais on a chacun des obligations de notre côté, alors j'ai décidé de réduire un peu le sujet, et moi je vais parler dans cette conférence surtout de la fin du XVIIIe siècle, puisqu'elle constitue vraiment un tournant dans la façon d'appréhender la naissance, sur différentes thématiques, à la fois sur la façon dont les femmes vivaient leur grossesse, vivaient leur accouchement, sur la façon dont la politique, dont l'État, la monarchie à l'époque, permettait en fait, prenait en charge les populations. C'est le début justement où l'État va vraiment se tourner vers les populations et essayer d'apporter une aide sanitaire et sociale aux mères et aux futures mères. Et puis, sur le plan religieux aussi, je vais beaucoup parler de ce thème-là, puisqu'à l'époque du XVIIIe siècle, on est encore dans une société qui se tourne beaucoup vers Dieu dans toutes les phases de la vie, toutes les phases de la vie des femmes, en l'occurrence. On prie beaucoup quand on est enceinte au XVIIIe, on prie pour survivre, évidemment, Les progrès de la médecine n'étaient pas aussi avancés, mais on est sur la bonne voie, comme vous le verrez ce soir, quand j'en parlerai.
Où est-ce que tu trouves les informations sur ce qui se passait au XVIIIe ?
Alors, c'est une très bonne question, puisque donc moi, en fait, je me suis formée en histoire, déjà, pour me former dans cette méthode scientifique. L'histoire, c'est une science. Et où je trouve les informations ? Eh bien, dans les archives départementales, dans les archives des hôpitaux, en fonction vraiment de la thématique. Là, pour cette conférence, je vais utiliser des sources locales. J'ai trouvé des sources du côté de Meymac, du côté de la Creuse, du côté de Clermont-Ferrand. On reste dans le Massif central. Mais c'est une très bonne question, puisque c'est vraiment la difficulté de mon sujet. C'est qu'on s'intéresse quand même à la naissance. La naissance concerne tout le monde, que l'on soit un homme ou une femme. Mais l'accouchement, ça concerne tout de même plus les femmes. Et surtout, à cette époque, il était vraiment inacceptable qu'un homme soit dans la chambre de la femme qui accouche. Alors, à cette époque, la vie des femmes, en fait, était beaucoup très imprégnée d'oralité. La plupart ne savaient pas écrire. Donc, en fait, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des sources, puisque tous les rituels autour de la naissance, toutes les naissances elles-mêmes, les déclarations des bébés, ont toujours été retranscrit de façon orale. C'est bien plus tard, justement à la fin du XVIIIe siècle, qu'on a essayé justement de tenir des registres. Et donc c'est à partir de ces différentes sources-là que je travaille.
Est-ce que tu as des sources qui viennent directement des personnes qui accouchent ? Ou c'est uniquement des personnes qui encadrent l'accouchement ?
Alors des personnes qui accouchent, oui, j'en ai. C'est quand même beaucoup des femmes qui étaient lettrées, on va dire, des femmes qui étaient d'un certain milieu. On peut parler, par exemple, de Madame de Lafayette qui raconte ses accouchements, beaucoup de correspondances comme ça. Après, la plupart des sources, ce sont sur les accouchements, vraiment le moment de l'accouchement, ce sont des sources de médecins, des sources de sages-femmes, ou encore, là aussi, dans les milieux bourgeois et les milieux aristocrates, ce sont par exemple des dames de compagnie. On a une femme de compagnie de Marie-Antoinette, Madame Campan, qui a raconté l'accouchement de l'un des royaux bébés, quoi.
Est-ce que tu pourrais me raconter qu'est-ce qui t'a mené à t'intéresser à ce sujet-là ?
Alors, je me suis intéressée à ce sujet, tout d'abord parce qu'il est très vaste. Et que, comme je l'ai dit, à l'époque, au XVIIIe siècle, Donc déjà, j'ai choisi le XVIIIe siècle, puisque c'est vraiment un tournant hein, dans cette histoire-là de la naissance. Et que l'on soit une princesse de sang royal, une reine, ou une bourgeoise, ou encore une simple roturière, ou encore une femme très pauvre, une femme marginale, hein, entre guillemets, ce qu'on appelait l'éphémère, on n'accouche pas de la même façon. Et moi, c'est cette diversité-là qui m'a vraiment intéressée. Et puis la complexité des sources vraiment a fait que je me suis dit, ah, va vraiment falloir fouiner pour trouver des choses là-dessus. Et moi, j'aime bien ça.
Est-ce que ta conférence, elle se concentre vraiment sur le moment de la naissance ? Ou alors ça se poursuit dans les soins postpartum, dans les soins du nouveau-né ?
Alors je ne vais pas trop en parler, non. Il faudra me réinviter et j'en parlerai avec plaisir. Mais là, ce soir, je vais vraiment me concentrer sur la profession finalement de sage-femme. Comment est-ce qu'elle s'est créée ? Puisque c'est au 18e que la profession de sage-femme, au sens professionnel du terme, s'est créée. Auparavant, une sage-femme, c'est tout le monde était sage-femme. C'est-à-dire que, ah tiens, j'accouche, je vais appeler ma tante, je vais appeler ma voisine, elles vont m'aider. Et c'était elle qui faisait la fonction, j'insiste bien sur ce mot, la fonction de sage-femme, mais ce n'était pas une profession.
Comme tu l'as dit, toutes les femmes de toutes les catégories accouchent, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est surtout les femmes lettrées ou dans un milieu où elles sont encadrées par des personnes qui peuvent écrire, des médecins, etc., qui vont faire des témoignages. Mais est-ce que du coup, dans les classes plus populaires, il y a aussi des sources ?
Eh bien oui, puisque ce soir, je vais parler surtout de ces classes-là, puisque je vais beaucoup parler de sources que j'ai trouvées dans le Massif central, donc beaucoup en Auvergne et dans le Limousin. Et évidemment, il y a des sources hein, qui nous viennent. Alors, je ne vais pas spoiler, hein, vous verrez ce soir. J'ai des sources qui sont à la fois des documents, vous savez, on a du mal à déchiffrer, où faut ce qu'on appelle de la paléographie. Hein, il faut savoir lire ces documents anciens-là, c'est vite décourageant. Mais j'ai des sources aussi plus rigolotes, plus ludiques. J'ai des, par exemple, je vais vous parler de la machine de Madame du Coudray, qui est l'un des premiers mannequins qui a servi pour aider les sages-femmes dans leur formation. C'est un mannequin qui représente un buste, un bassin et des cuisses de femmes, avec à côté un fœtus qu'on peut placer à l'intérieur. On peut montrer les manœuvres d'accouchement aux sages-femmes. Je vais travailler avec cette source-là. Et c'est assez... Je pense qu'il faut le voir pour se rendre compte d'à quel point c'est intriguant. Ça s'appelle « La machine » de Madame du Coudray. Je vais travailler aussi avec des petits objets du quotidien, des petits gris-gris. Et en Corrèze, d'où je viens, en Creuse aussi, on aimait beaucoup les petits gris-gris, ces petits objets insignifiants qu'on se trimballe encore hein, partout et qui sont censés porter bonheur, qui nous donnent la force dans les moments où on en a le plus besoin. Et croyez-moi, un accouchement, même si ça se passe très bien, ça reste une épreuve et on a besoin de force à ce moment-là.
Mais du coup, est-ce qu'il y en a spécifiques aux accouchements ?
Oui. Est-ce que j'en donne un ? Oui, je vais en donner un. On a par exemple une tradition typiquement auvergnate et limousine, c'est le sachet d'accoucheur. À l'époque, on confectionnait des petits sachets en tissu, opaques, il ne fallait pas voir ce qu'il y avait dedans. Et à l'intérieur, on y glissait toutes choses mystérieuses, toutes choses mais aussi banales, comme par exemple des petits cailloux. C'est des choses qui avaient une symbolique en général pour la personne ou pour la famille. On a retrouvé certains sachets avec des petites médailles des saints locaux, des petites prières à la Vierge Marie, des petites choses païennes comme ce qu'on appelait des pierres d'aigle. Hein, c'est des petits cailloux que les aigles en général mettaient dans leur nid. On a aussi des petits bouts de cierge bénis, des petites choses comme ça. Et en fait, la femme enceinte se promenait avec ce sachet pendant toute la grossesse. Et au moment de l'accouchement, on le gardait, on le mettait sous l'oreiller et on priait très fort pour que ça se passe bien. Mais il y en a tellement. Faut venir m'écouter.
Les naissances, c'est seulement avec des sages-femmes ou est-ce qu'il y a aussi des médecins présents ?
Alors justement, c'est l'un des tournants aussi du XVIIIe siècle. C'est qu'à l'époque, il y avait quand même peu de médecins, peu de chirurgiens qui s'intéressaient aux accouchements. Il y en avait beaucoup dans la capitale. Les reines, par exemple, Catherine de Médicis a eu un accoucheur. Les princesses de sang royal, elles avaient souvent un accoucheur. C'était réservé à une élite, puisque ces accoucheurs-là étaient chirurgiens. Donc, ils avaient fait des études, ils connaissaient en matière d'anatomie, les sages-femmes, vraiment, je vais vous montrer que, allez, si on était au 18e, tu aurais pu être ma sage-femme. C'était vraiment différent. Et donc, oui, au 18e, on commence à voir des chirurgiens qui s'intéressent à la pratique des accouchements et qui vont essayer de proposer des cours, de partager leur savoir, qui vont aussi essayer de mettre les sages-femmes sous leur tutelle pour différentes raisons et qui vont parfois aussi s'intéresser à l'accouchement, non pas par souci sanitaire et social, mais peut-être plus pour le business que l'accouchement représente, puisqu'à l'époque, quand une amie venait nous aider à accoucher, ou même la première figure de la sage-femme, que l'on appelle la matrone, on la remerciait avec quelques châtaignes pour qu'elle puisse aller manger tranquille au coin du feu, quelques bûches de bois pour se chauffer, ce qu'on avait en fait, une poule, quelques œufs. Alors qu'après, au 18e, lorsque la profession de sage-femme est devenue un vrai métier, on a commencé à vouloir, à demander, quand on était sage-femme, une rémunération. Et les chirurgiens, bah oui, les chirurgiens, ils s'attendaient vraiment à être payés. Donc il y a cet enjeu financier-là que je vais mettre en lumière ce soir.
Les médecins et chirurgiens se sont intéressés à cette question et ont formé des sages-femmes. Mais est-ce qu'il y a eu une transmission entre les sages-femmes de fonction et les sages-femmes de profession ?
Alors, c'est très intéressant. Les deux ont perduré. Il y a des femmes donc, qui étaient, entre guillemets, sages-femmes, qu'on appelait plutôt les matrones, qui avaient la confiance des femmes du village. Souvent, chaque village avait sa matrone. Et on a essayé, par la suite, de mettre en place une sage-femme qui avait été se former à la ville, qui était attestée, reconnue sage-femme royale. Ça a été très compliqué, puisque cette population-là, la population rurale, ils ont d'abord refusé tout ça. Enfin, on faisait confiance à la matrone, c'était elle, point. La matrone, elle avait souvent en plus, c'était souvent une femme d'expérience qui avait eu elle-même plusieurs enfants. Quand ils ont vu une petite jeunette revenir de la ville qui disait « Mais moi, je sais, j'ai appris des trucs », mais non, ça n'est pas du tout passé. Les campagnes ont quand même été longtemps imperméables à ce savoir qui venait de la ville. Mais la sage-femme a su quand même s'imposer au fil des siècles. Et elle a été finalement le maillon entre la matrone, qui était une femme d'expérience, sans connaissance médicale, avec sa seule connaissance empirique, et ensuite vraiment la médecine, les chirurgiens, et plus tard l'hôpital. À l'époque, on n'allait pas accoucher à l'hôpital, on accouchait à la maison. Ça s'est fait, c'est une transition qui s'est faite très lentement tout de même. Il y a encore des personnes du siècle dernier, du début du XXe siècle, voire même milieu du XXe siècle, qui sont nées chez eux. Vous vous rendez compte ? C'est fou, hein ? Ça revient aussi, hein. Attention, hein, y a des personnes qui naissent encore à domicile aujourd'hui, avec évidemment tout de même la possibilité d'avoir accès aux soins, d'avoir un suivi de grossesse, d'avoir tout cela. Mais l'accouchement à domicile est un des débats aujourd'hui. Et le fait de s'intéresser à l'histoire et de voir qu'avant, ce n'était pas un débat, c'était comme ça, point. Aujourd'hui, c'est parfois critiqué. Eh bien, ça nous fait réfléchir, en fait, sur ce ping-pong entre le passé et le présent.
Enfin, moi, du peu que j'avais entendu de cette histoire-là, j'avais cru comprendre qu'il y avait eu quand même un problème et que c'est parce que... Enfin, un problème. En tout cas, une question autour du fait que les matrones avaient en réalité plus de connaissances que les chirurgiens et que parce qu'ils les dominaient socialement et de leur genre, on a effacé leur savoir et qu'ils ont fait des erreurs... qu'on aurait pu régler avec le savoir des matrones.
Oui, alors en fait... Alors oui et non, je ne vais pas prendre parti là-dessus. Il y a quelque chose qui a été effacé, c'est que la matrone, comme je l'ai dit, elle avait souvent la confiance des femmes et surtout, on vivait. C'est la façon de vivre l'accouchement qui a changé. À l'époque de la matrone, l'accouchement, ça faisait partie de la vie des femmes. Ce n'était pas quelque chose de grave, entre guillemets, pas quelque chose de scandaleux. C'était voilà, on accouche, on fait des enfants, c'est naturel, c'est comme ça. Là, avec la médicalisation de l'accouchement, on a certes proposé l'accès aux soins aux femmes. Enfin, c'est le but premier, hein, finalement, de l'arrivée des accoucheurs. C'était de proposer leur service, de proposer leur science. Mais tout ce savoir-là des matrones qui servait, qui était beaucoup dans le fait de rassurer la femme, tous ces petits gris-gris, en fait. Moi, je ne suis pas sûre que mettre une mandragore sous le lit, ça fasse accoucher plus vite. J'aurais peut-être dû essayer, mais... Mais vous voyez, c'était des choses qui donnaient confiance aux femmes. Et ça a disparu. Alors, on pourrait se questionner, est-ce qu'aujourd'hui ça revient ? On a des nouveaux métiers, hein, les accompagnantes à la parentalité, les doulas par exemple. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ces matrones avaient leur savoir, certes. Pour moi, c'est des femmes qui étaient tout à fait honorables, qui faisaient ça bénévolement en plus. Hein. C'est quand même, faut quand même mettre l'accent là-dessus. Hein. Et ces matrones, il y a eu un moment au 18e où la population a dit stop, il faut autre chose. Il y a eu des pamphlets contre les matrones, puisque ce n'est pas de leur faute, hein, elles venaient aider. On leur disait, je suis là, je suis dans la mouille, je vais accoucher, il n'y a personne pour m'aider, il faut que tu viennes. Mais qui aurait dit non, je ne t'aide pas, je te laisse seule avec ton problème, avec ton fardeau. Les matrones voulaient vraiment porter secours. Je pense que c'est en ce sens qu'il faut les, quand même garder ce côté admirable-là. Mais oui, elles n'avaient pas vraiment de connaissances médicales. Et il y a eu des critiques, il y a eu beaucoup de rapports sanitaires qui sont remontés dans les élites de l'État où des matrones avaient parfois vraiment laissé les enfants avec des blessures. Les femmes s'étaient relevées de leur couche avec des infirmités qui a pu les handicaper tout au long de leur vie. Voilà, ça dépend des sources. Il y a eu des accoucheurs, je vais en parler, d'un accoucheur qui est très, très, très rigolo, vous le verrez. Lui, je ne sais pas si... Alors oui, on va pas critiquer, il était accoucheur, il était chirurgien, mais il a surtout été intéressé par le côté business hein, qu'il pouvait y avoir dans l'accouchement. Donc ces deux modèles-là ont vraiment coexisté. Après, c'est vrai qu'il y a un rapport de genre qu'on peut observer quand même, c'est que les hommes, quand ils se sont intéressés à l'accouchement, ils ont tout de suite voulu mettre le grappin sur les matrones, sur les sages-femmes et les mettre sous leur tutelle, que ce soit les hommes d'État, que ce soit les hommes d'Église et que ce soit les hommes de science. C'est un rapport qui est quand même assez unanime. Les sages-femmes devaient prêter serment devant le curé, devant le juge de police, et parfois même devant le chirurgien qui voulait absolument, attention, tu es sage-femme, mais si ça se passe mal, tu dois m'appeler parce que c'est moi qui viens quand ça se passe mal.
Comment est-ce que tu mènes ces recherches ? Est-ce que tu es toute seule ?
Alors non, je ne suis pas toute seule. Moi, je fais un travail de recherche avec différents chercheurs. Hein. Je vais voir à la fois ce qu'on appelle des sources historiques, donc des sources du 18e, mais je travaille aussi avec toute une bibliographie de chercheurs, beaucoup européens et surtout français. Je vais voir leurs travaux, donc vous pouvez tout à fait aussi aller plus loin. Le but, moi, de mes conférences, c'est de vous donner envie d'aller voir ces chercheurs qui sont très, très spécialisés. Moi, c'est quand même plutôt large ce que je fais. C'est ce qu'on appelle de la médiation culturelle. Et vous pouvez aller voir Jacques Gélis, qui a été le premier historien à vraiment s'intéresser à l'histoire de la naissance, le premier avec Mireille Laguier. On peut parler notamment de Nathalie Sage-Pranchère, qui en plus habite du côté de la Corrèze, qui travaille beaucoup sur les sages-femmes de Tulle, les sages-femmes de Brive. Et toute une flopée d'historiens, je pourrais en énumérer des centaines. Mais non, évidemment, comme je l'ai dit, l'histoire de la naissance, c'est un immense chantier. Heureusement que je ne suis pas toute seule. Beaucoup trop lourd pour moi. Je m'appuie vraiment sur une méthode scientifique, une méthode que j'ai appris au cours de mes études à l'université, hein, en master d'histoire. Et après, moi, j'essaye vraiment de... Je ne vais pas dire vulgariser, je trouve que c'est un mot qui ne me convient pas. Pour moi, ça sous-entend que mon public est bête, alors que ce n'est pas du tout le cas, attention, vraiment. Mais moi, mon but, c'est de peut-être d'isoler certaines anecdotes historiques et de venir vous les retranscrire, les donner à portée du grand public. Tout le monde peut venir, les enfants, à partir de peut-être 11-12 ans. Et voilà, que l'on soit érudit ou pas, que l'on ait fait des études ou pas, moi j'essaye vraiment de faire de l'histoire pour tout le monde. Et le but de ces conférences, c'est tout simplement de vous divertir, de vous offrir un bon moment autour de l'histoire. Et surtout, moi ce qui me tient vraiment à cœur, hein, comme je l'ai dit, j'ai choisi de travailler sur l'histoire des femmes et du genre, c'est que les femmes ne connaissent pas leur histoire. On a encore ce truc aujourd'hui de « mais les femmes n'ont pas d'histoire ». Non, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important, les femmes, elles sont tranquilles chez elles, dans leur salon. Pas du tout. Et là, en l'occurrence, dans l'histoire de la naissance, les femmes sont au cœur de l'histoire. Et c'est sans doute aussi la raison pour laquelle j'ai choisi cette voie-là.
Tu m'as aussi parlé d'une autre conférence que tu vas faire plus tard.
Oui.
Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu ?
Oui, bien sûr, la prochaine conférence, j'espère que Radio Vassivière viendra la retranscrire, ça sera à la Microfolie de Mémac dans le cadre des apéros Art et Histoire. Donc c'est le 30 octobre à partir de 19h et attention, place limitée, il faudra réserver. Vous viendrez m'écouter sur donc toujours l'histoire de la naissance, mais cette fois-ci, je travaillerai beaucoup avec des sources d'art. Donc on parlera de la représentation, par exemple, des femmes enceintes. Est-ce qu'à l'époque, on représentait les femmes enceintes ? Quelle place elles avaient dans la société ? Est-ce qu'il y avait des vêtements, par exemple, pour les femmes enceintes ? Est-ce qu'on peignait leur corps ? Comment est-ce qu'on les mettait en valeur ? Je travaille sur un podcast avec des épisodes ponctuels sur le présent, cette fois-ci. Vous pourrez retrouver le premier épisode très bientôt, où j'ai interviewé une auxiliaire de périculture qui est chargée de collecter le lait maternel. Et donc, je vais expliquer pourquoi est-ce qu'elle collecte du lait maternel. Et je vais aussi croiser dans cette interview le présent avec le passé en matière d'allaitement et de conseils non sollicités. J'espère juste vous avoir mis l'eau à la bouche et vous avoir donné envie de venir à la prochaine date, donc à la Microfolie de Mémac, le 30 octobre. Après, vous pouvez également me suivre sur les réseaux pour retrouver voilà, les petits épisodes ponctuels que je réalise grâce à Radio Vassivière. Faut bien le dire, bien les remercier. Sur Instagram, donc ça s'appelle métaphore.m, M comme Maïline. Et puis après, sur le site de Radio Vassivière, finalement, vous pourrez les réécouter et les podcaster.
Très bien, on écoutera ça. Ben, merci beaucoup, Maïline.
À bientôt.
À bientôt.